fantômes et merveilles. Une émission de la compagnie théâtrale Science 89. Avec Françoise Thirion et Michel Valmet.
Bonjour Françoise Thirion.
Bonjour Michel Valmer. Bonjour à vous. Nous nous retrouvons cette semaine ensemble dans notre émission Fantômes et Merveilles. Émission sous-titrée encore aujourd'hui Vertige et Poésie 11, ou plus exactement Portrait d'un mystérieux médecin généraliste ligérien.
Ah oui, en compagnie d'un...
Ah, c'est
d'un médecin qui a un nom tout à fait formidable,
oui.
Crayon du papier.
Oui. Et nous allons nous interroger avec lui sur la santé en général et plus particulièrement sur la santé mentale pour la dernière émission cette semaine.
Oui, ce dernier point qui a à voir, pour moi en tout cas en ce qui concerne la création, avec la création littéraire, artistique, musicale. Combien d'écrivains, combien d'artistes, de peintres, de poètes sont morts en ayant souffert.
Oui.
Ah, c'est le problème de la souffrance aussi qui intéresse forcément à la fois le théâtre. Il y a toujours de la souffrance au théâtre et qui intéresse la médecine. Voilà, et nous en avons déjà discuté au cours de nos émissions passées. C'est pourquoi je me permets de vous saluer, monsieur Crayon du Papier.
Absolument. Merci.
Bonjour.
Oui, bonjour.
Content d'être avec vous. Ça va bien cette semaine.
Vous allez bien. Ça, c'est une question que le médecin pose. Vous allez comment ?
Je ne pose jamais cette question.
Ah, c'est intéressant. Une seule santé. Il y a sur votre bureau effectif dans la réalité, une petite sculpture que vous nous avez amenée. C'est quoi ça, cette petite sculpture ?
Cette petite sculpture m'a été offerte par la femme d'un patient qui s'appelait Jacques. Et Jacques est décédé à la suite d'une maladie qu'il a emportée en 4 ans. Un type comme chacun d'entre nous, hors norme, et que j'ai accompagné presque jusqu'au bout. Et après son décès, donc, sa femme a offert cette petite statuette qui était sur sa table de chevet. Jacques, je peux donner un exemple, parce que ça fait partie de mes colères, est allé voir un très grand professeur au début de sa sclérose en plaques à Paris. Et le grand spécialiste regarde le fond de ses yeux, puisque Jacques devenait aveugle. Jacques attendait beaucoup de ce grand spécialiste, et le grand spécialiste ne lui avait pas dit bonjour. Et quand il a vu les yeux de Jacques, a appelé un collègue en disant à son collègue « Viens voir un chef-d'œuvre en péril ». Quelle honte.
Ah.
Alors voilà, nous allons parler...
Oui, c'est le silence qui suit fait partie de l'anecdote. Oui.
Nous allons parler aujourd'hui d'un grand sujet qui intéresse tout le monde, c'est la mort.
Oui, c'est la mort.
La semaine dernière, nous avons lu un texte sur qui tuer. Vous donnez peut-être jamais une continuation de vie éternelle. Ça, il y a des fous qui s'en chargent en ce moment. Mais justement, ce sont des fous. Alors parlons de ce qui nous attend à tous après la naissance. C'est difficile. Le soin difficile, c'est la mort.
Oui, alors justement, là, il y a un livre que notre ami, notre invité, nous a apporté avec une photo. Alors la photo, c'est la photo d'un monsieur, mais vous vouliez absolument nous dire quelque chose à son propos.
C'est Jacques, c'est le fameux Jacques dont je viens de parler.
Ah voilà, c'est ça,
oui,
c'est sa photo.
Absolument. Et de son vivant, il m'a offert ce livre.
Il faut rappeler le titre, parce que le titre est terrible.
Ce titre, c'est « Parce que je ne veux pas mourir ». C'est un livre qui a été écrit par Jean-Pierre Moreau. Et Jean-Pierre Moreau, qui avait une maladie grave, donc, s'est lancé dans une course hallucinante à travers le monde, seul, en fauteuil roulant, pour trouver une médecine qui pourrait le guérir. Il est allé en Togo, en Suède, aux États-Unis, aux Philippines, à Saint-Domingue, en Inde aussi, une aventure exceptionnelle qui l'a amené à essayer d'autres remèdes que ceux proposés dans notre pays. Et voilà, et c'est l'histoire de son combat très particulier qui fait qu'il est certainement resté plus longtemps vivant que s'il n'avait pas parcouru le monde.
Ah, mais votre regard me fait penser à quelque chose là. C'est le rapport à la médecine qui est parfois pratiquée en Afrique, par exemple, à travers les objets. Vous y croyez, ça, ou pas?
C'est une très bonne question. Vous savez, j'ai dit lors des différentes émissions précédentes que les patients me faisaient des cadeaux. Et j'ai reçu un cadeau un jour, au début de mon installation. M'a dit son mari aider une patiente en lui faisant de l'acupuncture pour une épaule qui guérissait pas. Et pour me remercier, ce monsieur m'a invité chez lui et m'a transmis la possibilité de conjurer les brûlures. Ce que j'ai fait, donc depuis 40 ans, chaque fois qu'on me le demandait, et à ma grande surprise, toujours aujourd'hui, ça marche. Et on sait très bien que dans les hôpitaux, on va dire très sérieux, des conjureurs sont parfois appelés pour conjurer les brûlures. Donc forcément, cette aventure m'a amené à penser qu'il existait d'autres façons de soigner que ce qu'on m'avait appris à la faculté de médecine.
Donc, vous iriez plutôt dans le sens de dire que parfois, des médecins qui ne sont pas des médecines, qui ne sont pas forcément des vraies médecines, peuvent soigner finalement, alors?
Qu'est-ce qu'une vraie médecine?
Un vrai médicament, par exemple.
Qu'est-ce qu'un vrai médicament? Les médicaments nous posent problème avec l'apparition des génériques, entre autres. Mais oui, bien sûr que se soigner avec la nature peut parfois être beaucoup plus utile que se soigner avec des médicaments qui peuvent entraîner, tous les médecins le savent, des effets secondaires.
Nous nous sommes interrogés quand nous sommes allés en Afrique travailler avec des phytothérapeutes, c'est-à-dire qu'au Tchad, par exemple, ils ont des tas de médecines, ils ont l'ail, ils ont plein de légumes qui grissent, mais qui ne vous empêchent pas de mourir, mais qui soulagent. Voilà. Et tous ces champs de plantes ont été véritablement pillés par les laboratoires. Faut-il le dire? Et là-bas, au Tchad, on va de préférence voir le sorcier plutôt que le médecin blanc.
Et alors, c'est parce que vous pensez que la grenade peut nous amener quelque
chose? Oui. Alors,
attendez. Choisi de nous faire entendre ce morceau.
C'est le moment de notre pause musicale, alors on va l'écouter.
Absolument, merci beaucoup.
Et toi, qu'est-ce que tu regardes? T'as jamais vu une femme qui se bat? Suis-moi dans la ville blafarde et je te montrerai comme je mords, comme j'aboie. Prends garde sous mon sang là.
Ça parle de quoi? C'est simple.
C'est une chanson qui est interprétée par...
Clara Luciani.
Oui, voilà.
Clara, pourquoi?
Vous pouvez me dire le nom exactement? Clara
Luciani.
Absolument. Luciani.
Voilà. Pourquoi alors, vous avez choisi ce morceau?
Le cancer du sein.
Absolument. C'est une magnifique chanson. Chantée par une femme. J'ai suivi, je ne sais pas, dans ma carrière, plus de 100 personnes souffrant de cancer du sein. La médecine a fait beaucoup de progrès depuis 30 ans, heureusement. Et cette souffrance est vécue de façon tellement profonde par les femmes que j'ai pu rencontrer que cette chanson, je la trouve magnifique parce qu'on sent le combat que mènent toutes ces femmes.
C'est le problème de la mort, d'une certaine manière, qui est en perspective, mais c'est aussi le problème de la souffrance. Et je voudrais poser le problème aussi de la souffrance qu'on peut sentir quand on va mourir.
C'est un problème difficile. Je fais partie des médecins qui ont continué à faire des visites à domicile, beaucoup moins que ceux d'avant ma génération. J'ai donc accompagné à domicile des patients qui sont décédés. Oui, ce sont des moments difficiles. On a la chance d'avoir l'hôpital à domicile aussi, qui fait un travail d'accompagnement absolument remarquable. Ils m'ont beaucoup aidé dans ma carrière à accompagner certains patients. Et j'en profite pour vraiment remercier ces médecins, ces infirmières, ces aides-soignants qui font un travail de l'ombre, qui font un travail très difficile, car chaque patient est différent, tout le temps, très vivant, mais aussi à la fin de sa vie. Chacun meurt comme il le peut. Et chacun doit être accompagné comme nous le pouvons, dans l'état actuel des connaissances médicales et de la loi.
Et surtout de la misère médicale. L'hôpital, maintenant, malheureusement, n'a plus l'occasion d'aller et de tout assumer. On oblige les femmes qui sont loin d'une maternité à accoucher chez elles, dans des conditions parfois terriblement dangereuses pour elles, pour leurs enfants. Et donc, maintenant, on demande la même chose aux vieux, c'est d'aller mourir sous un bureau à l'hôpital, aux urgences, où on vous abandonne.
Oui, Françoise, vous évoquez un article qui est paru ce matin dans Ouest France. Le futur CHU inquiète, il est qualifié d'usine à soins.
Oui, si on analyse la définition usine à soins, ça veut dire qu'il n'y a plus de rapport humain, quoi. Il y a plus de... On ne prend plus le patient comme un être humain, mais comme un objet.
C'est ce que je crains. C'est ce que je crains à l'hôpital. Quelques patients hospitalisés m'ont dit, vous savez, le médecin qui passe dans ma chambre, il rentre avec son ordinateur, il regarde l'ordinateur, il me pose des questions en regardant l'ordinateur et il s'en va. Et c'est triste.
Il ne vous a pas regardé.
Non. Quelques médecins sont très attentifs aux patients et c'est la moindre des choses. Mais ces histoires d'une tristesse infinie, je les entends toutes les semaines.
Bon, bah écoutez, moi, je voudrais terminer sur une note un peu plus optimiste.
D'accord.
Parce que vous avez eu un maître qui vous a tout appris et qui a un amphithéâtre qui lui est consacré à Nantes. Parlons de ce médecin, parce qu'enfin, le CHU de Nantes est quand même encore une référence pour plein de choses, de découvertes, de médecins compétents, de psychiatres compétents, d'infirmières, de découvertes aussi. On va avoir un nouvel hôpital à Nantes. Quand même, je veux dire, la santé du Nantais, du citoyen nantais, est quand même vraiment privilégiée. Disons-le, soyons optimistes.
Je suis tout à fait d'accord avec ce point de vue. Merci de me donner l'occasion de parler de mon maître, professeur Jean-Pierre Carnéis, que je suis allé voir un jour, j'avais 26 ans. Je voulais faire une thèse courte pour vite avoir mon diplôme. Et il m'a branché sur la vie d'un chirurgien navigant du 19e siècle qui est parti faire un voyage autour du monde. Et cette thèse, au lieu de durer 6 mois, a duré 2 ans, 2 ans de travail. Où nous avons démontré, avec l'aide de mon maître évidemment, que les premiers signes du scorbut apparaissaient à J60, ce que personne n'avait jamais démontré. Et
professeur... J60, c'est-à-dire
Au 60e jour l'absence de prise de vitamine C, les premiers signes du scorbut apparaissaient. Et Jean-Pierre Carny, c'est mon maître, il a laissé son nom à un amphithéâtre. Et c'est un monsieur qui m'a ouvert les yeux sur le monde, sur la géographie, sur l'histoire. Et si je me suis ouvert à des médecines alternatives comme mon premier diplôme, c'est-à-dire l'acupuncture, c'est vraiment grâce à lui. Et le seul maître que j'ai en médecine, c'est lui.
Alors merci, 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 crayon du papier, on ne saura jamais qui vous êtes, mais nous le savons, maintenant nous avons découvert un médecin généraliste en voie de disparition. Alors, il va renaître, j'en suis sûre, dans nos cœurs et dans nos têtes, et n'oubliez pas, chers auditeurs de GTFM, c'est notre dernière émission sur la santé mentale.
Mais nous nous reverrons. Au revoir à tous pour de nouvelles rencontres.
Et aventures!
Fantômes et merveilles. Une émission de la compagnie théâtrale Science 89. Avec Françoise Thirion et Michel Valmet.